Une fois de plus, j'ai le plaisir de me retrouver parmi vous. Et c'est toujours très agréable pour moi. On est, c'était rappelé tout à l'heure, le jour des rameaux. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il faut apporter un message en rapport avec les rameaux? Puis finalement, j'ai pas eu la conviction. Une chose dans cette histoire des rameaux qui m'a toujours interpellé, c'est cette histoire du petit ânon là qui a fallu détacher. Et puis, le Seigneur en a besoin. Qu'est-ce qu'un petit âne vient faire dans l'histoire de la croix, du sacrifice de Jésus? Puis il y avait un petit âne, hein, le Seigneur en avait besoin. Puis apparemment, c'était comme ça, il n'y avait pas à discuter, le Seigneur avait besoin de cet ânon. Alors, ce matin, je vais plutôt vous parler d'une autre histoire, nettement avant celle-là, c'était environ 1100, au moins 1100 bonnes années avant, un peu plus, de migrants, comme on dirait maintenant, des migrants économiques, dont le Seigneur avait besoin, dont le Seigneur a eu besoin pour que le sacrifice de la croix puisse avoir lieu. Qu'est-ce qui faisait de ces migrants qui traînaient leur misère? Et cela, nous le trouvons dans le livre de Ruth. Oui, c'est à cette époque-là, au temps du gouvernement des juges. Ça commence comme cela. Et le gouvernement des juges, c'était après que le peuple d'Israël soit sorti d'Égypte, libéré de l'esclavage. C'était après que Josué ait conquis le pays promis, ce pays de Palestine, Israël. Et arrive un moment, le gouvernement des juges, donc le peuple s'est installé, et une époque d'environ 150 ans qui s'installe, où il y a une chose bizarre qui est dit dans le livre des juges, enfin bizarre, malheureusement très réelle. En Juges 2, verset 10, on trouve toute cette génération, la génération qui avait conquis le pays promis. Toute cette génération fut elle aussi réunie à ses ancêtres décédés, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Et c'est là que se situe le livre de Ruth. Une génération qui ne connaît plus grand-chose de sa propre histoire et de l'action de Dieu pour eux. Et je lirai le début de ce livre de Ruth, les 17 premiers versets. Au temps du gouvernement des juges, donc, il y eut une famine dans le pays d'Israël. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémie, le nom de ses deux fils Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Élimélec, mari de Noémie, mourut, elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites, donc du pays. Le nom de la première était Orpa, le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi tous les deux. Et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait avec ses deux belles-filles, avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Noémie dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. » Que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. Elle les embrassa, elles se mirent à sangloter, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Noémie dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme, et quand je dirai « il y a de l'espoir pour moi quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde », attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Elles sanglotèrent encore, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, « Voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Ruth dit, « Ne m'épouse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. » Je m'arrêterai là dans la lecture. On lira encore 2-3 versets par la suite. Nous sommes dans des circonstances donc très difficiles, hein, qui étaient exposées au début, une famine qui pousse un homme avec sa femme, ses fils à émigrer pour essayer de gagner sa vie, pour essayer de survivre. Nous trouvons ça donc dans les premiers versets. Cet homme, Élimélec, sous la pression des circonstances extérieures, est amené à faire un choix pour lui et sa famille. Il décide donc de quitter Bethléem, leur ville, c'est un grand mot, peut-être un village, qui est plus grand qu'un village en tout cas, pour aller de l'autre côté du Jourdain et de l'autre côté de la mer Morte, dans la campagne de Moab, réputée pour sa fertilité. On est en pleine actualité. Combien quittent actuellement leur pays pour aller là où, soi-disant, la vie est plus facile? Ce choix va déterminer toute l'histoire de la suite de la famille, toute la suite de l'histoire de la famille, et elle retentira même sur l'histoire de toute l'humanité. Au départ, la décision d'Élimélec relève du bon sens. Pourquoi rester dans une Bethléem aride, où l'on risque de mourir de faim, alors qu'une plaine fertile est à une distance raisonnable? On doit être capable de l'atteindre, cette fameuse plaine de Moab. Ce qu'Élimélec ignore certainement, puisqu'on nous dit que la connaissance de Dieu était plus ou moins partie à ce moment-là, ce qu'il ignore certainement, c'est que quelques 700 ans auparavant, on remonte vraiment très loin, un autre a fait un choix identique. Il s'appelait Lot. Choisissant de s'établir dans la plaine fertile de Sodome, aux dépens de son oncle Abraham, auquel il laissait la montagne aride, qui se débrouille avec cette aridité, lui, Lot, préférait le terrain fertile de Sodome. On connaît la suite. Ce qu'Élimélec ignore peut-être, c'est que Moab, ancêtre de ce peuple chez lequel ils seront, a créé pas mal de difficultés au peuple d'Israël, s'opposant à la traversée de son territoire après la sortie d'Égypte, l'entraînant par la suite à l'idolâtrie, dirigeant à un certain moment une coalition pour le chasser des territoires que le peuple d'Israël était en train de s'approprier. Moab, un peuple frère d'Israël depuis Abraham et Lot, mais un frère ennemi, toujours prêt à le faire chuter. Et c'est là que Élimélec se rend pour sauver sa vie et celle de sa famille. On peut penser qu'il n'avait pas le choix. Pourtant, après dix ans de séjour en Moab, quand Naomi, sa femme, revient à Bethléem, il y a cette remarque que nous avons verset 19 du chapitre 1. Donc Naomi et Ruth, donc sa belle-fille, nous l'avons dit au chapitre 19, elles marchèrent toutes les deux jusqu'à leur entrée à Bethléem, elles reviennent. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet. Et les femmes disaient, mais est-ce là Naomi? Etc. Il y avait donc encore des gens à Bethléem. Il y en a qui étaient restés, ou qui étaient revenus avant. Il a dit qu'Élimélec et sa famille sont restés 10 ans, jusqu'à ce que tout le monde, enfin tous les hommes de la famille meurent. D'autres étaient restés. On croit parfois n'avoir pas le choix dans nos décisions. Tant nos pensées sont agitées par une crainte, un affolement, qui occulte tous les autres aspects et tous les signaux d'alarme. Le choix d'Élimélec va entraîner une conséquence prévisible. Nous avons ça dans les versets 3 à 5, nous l'avons lu tout à l'heure. Élimélec mourut, et les fils épousèrent des femmes moabites, des femmes du pays. Le nom de la première était Orpa, le nom de la deuxième était Ruth. Dieu avait condamné toute union de personnes de son peuple avec des Moabites. Élimélec l'a oublié ou il l'ignorait. C'était une alliance qui était condamnée par Dieu. On trouve ça dans le livre des Nombres. Élimélec n'avait pas toute la lumière de la parole de Dieu telle que nous l'avons aujourd'hui, mais il connaissait certaines choses et aurait dû être davantage en alerte. Mais que penser de nos propres choix? Combien d'entre nous tiennent compte des signaux d'alarme quand notre désir est excité par telle ou telle chose qu'il faut absolument avoir? Et à ce moment-là, le choix, il est vite fait, il penche vite d'un côté, on voit tous les avantages du choix à faire et on oublie tous les signaux d'alarme. Naomi se retrouve bien seule et nous allons un peu nous attarder un peu sur elle maintenant. Et la conscience d'être dans une voie qui n'est pas celle de Dieu, en voyant ce qu'est sa vie. Au verset 13, fin du verset 13, nous avons lu « La main de l'Éternel s'est abattue sur moi ». Et un peu plus loin, verset 20, « Ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara », c'est-à-dire « amère », « car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère ». Comblé, j'étais parti, vide, l'Éternel me ramène. « Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. » Ce sont terribles ces paroles. Le témoignage brutal d'une écorchée vive. « L'Éternel a témoigné contre moi. » Je ne suis pas dans ses plans, je ne suis pas agréé par lui. Il y a certainement un problème qu'elle ne discerne pas à ce moment-là. C'est le temps de la révolte contre Dieu. Avec cette parole terrible, oui, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Et pourtant, elle prend une décision essentielle et vitale. Malgré cet état d'esprit, elle décide. Ce qui est fondamental pour elle, nous avons vu au verset 6 et 7, elle se leva et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait avec ses belles-filles, avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Une décision essentielle, vitale, elle est habitée par le désir de revenir à la maison, de revenir à Bethléem, de revenir à la source, sachant que Bethléem, ça veut dire la maison du pain, c'est pour ça qu'il y a cette insistance, reviens à Bethléem, il y a de nouveau du pain. Et nous avons là un condensé de la parabole du fils prodigue. Quitter sa vie pourrie pour retrouver l'abondance auprès de Dieu. Quitter cette vie qui s'est pourrie à Moab, le lieu où il y avait tout en principe, pour retrouver l'abondance de là où on pensait qu'il n'y avait rien, de l'abondance du pain, de la maison du pain. Naomi ne s'entête pas, elle renonce à rester dans son impasse. Vivre nécessite de faire demi-tour, et ça ne l'a compris. Elle ne peut plus continuer là. La vraie vie, c'est de faire demi-tour. Elle est dans une impasse. Après les errements, les mauvais choix, le temps de la repentance, le temps de la conversion, même s'il reste bien des questions sans réponse, qu'est-ce qu'elle va retrouver à Bethléem? même si la situation s'est améliorée, même si elle pense que là, elle va retrouver. Mais elle sait que c'est en retournant à son point de départ, dans son peuple, avec son Dieu, qu'il y aura la solution. Au-delà de Naomi, il y a les deux belles-filles, Orpah et Ruth, avec tout d'abord un témoignage extraordinaire envers leur belle-mère. Quel témoignage, hein ? Elles se mirent à sangloter et lui dirent « Nous, nous irons avec toi, vers ton peuple. » On sent cet amour qu'elles ont pour leur belle-mère. Elles reconnaissent en elle une femme de valeur, qu'elles aiment. Elles sont convaincues d'être en sécurité auprès d'elle. Pourtant, elles ne sont pas du même peuple, elles n'avaient pas d'affinité spéciale avec elle avant. Elles sont prêtes à quitter leur pays et leur peuple pour rejoindre le peuple de l'Éternel, parce qu'elles ont expérimenté avec Naomi ce qu'était ce nouveau peuple qu'elles ne connaissent pas. Le témoignage de vie de Naomi est accompagné de son témoignage oral. Sa façon de bénir ses belles-filles n'est pas une formule, mais on sent que ça l'implique totalement quand elle dit, verset 8, « Que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacun de trouver du repos, etc. » Beau témoignage de cette femme qui a tout perdu et qui pourtant a un tel témoignage que ses belles-filles ont envie de repartir avec elle. Le témoignage de vie de Naomi est accompagné, oui, de son témoignage oral. Et finalement, Orpah, l'une des belles-filles, accepte les arguments de bon sens de sa belle-mère et renonce à sauter le pas. Sa belle-mère qui insiste, « Mais reste ici, qu'est-ce que tu vas venir faire avec moi ? Il n'y a pas d'avenir avec moi. Reste dans ton peuple, reste avec tes dieux. » Et Orpah renonce au risque de quitter ses habitudes et la vie de Moab. Ce risque-là, elle n'est pas prête à le prendre. S'engager dans une nouvelle vie pleine d'inconnus, c'est quand même difficile. Et elle accepte, oui, les arguments de bon sens. Même si elle discerne dans la vie qu'elle voit à travers Naomi une certaine lumière pour avoir envie quand même d'aller, mais pas suffisamment pour sauter le pas. L'idéal pour elle serait de rester un peu à cheval, un peu à Moab, un peu à Bethléem avec Naomi. Ce sera finalement Moab, car nul ne peut servir de maître, vous le savez. Orpah est tellement proche de nous. Renoncer à ce qu'on a, parce que ça peut être utile à certains moments, pour faire le pas, pour aller à l'endroit où il y a réellement une solution à notre vie qui n'a plus de sens. Et l'autre belle-fille, justement, Ruth, ne baisse pas les bras au moment du choix. Moab, pour elle, c'est clairement fini. C'est fini. Elle veut entrer dans cette nouvelle vie qui transparaît vers Naomi. Elle a compris qu'il fallait pour cela une décision vitale. Et sa déclaration au verset 16 est remarquable. « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. » En quelques mots, Ruth exprime trois aspects fondamentaux de son choix. Elle décide de suivre celle qui l'a convaincue par son témoignage, mais elle comprend qu'il faut aller plus loin. Elle décide que le peuple de Naomi est désormais le sien. Elle n'est plus du peuple de Moab. Pourtant, elle en est bien l'héritière. Mais elle décide que ce peuple, qu'elle ne connaît pas encore, mais ce sera le sien. Une étape fondamentale est franchie au verset 10. Donc, quand elles disent... Donc, depuis le verset 10, parce qu'au verset 10, « Nous irons avec toi vers ton peuple. » Les deux belles-filles déclarent ça. Mais une s'arrête là. Oui, j'aimerais aller vers ton peuple. Et Ruth qui arrive à dire, ton peuple, désormais, c'est mon peuple. On a changé de langage. Non plus aller vers, mais s'intégrer dans ce peuple nouveau d'Israël en renonçant définitivement à sa vie de Moabite. Ruth décide aussi d'abandonner complètement ses dieux, ses idoles, pour s'attacher désormais à l'Éternel seul, sans partage. Ton Dieu sera mon Dieu, comme ton peuple sera mon peuple. Ce choix radical de Ruth est remarquable. Au-delà de l'attachement affectif, elle discerne, sans certainement tout comprendre, que la double acceptation du Dieu d'Israël comme son Dieu et de ce peuple comme son peuple, c'est la voie de son salut. Convaincue certainement par l'Esprit du Seigneur, parce qu'elle ne connaît pas grand-chose, oui. Alors Orpa, au bénéfice du même témoignage, renonce finalement à franchir le pas, bien qu'elle en ait envie, mais elle s'arrête avant. Ruth confesse qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel, et elle confesse qu'elle lui soumet sa vie. Une histoire personnelle entre Dieu et elle commence. Et à cette confession, elle en lit une autre qui lui semble évidente. En devenant servante de Dieu, elle devient membre du peuple de Dieu, de son peuple. L'un ne peut aller sans l'autre. Elle a compris que Dieu veut non seulement des personnes qui s'attachent à lui, mais que ces personnes s'intègrent dans le peuple qu'il construit. Et nous connaissons la suite de cet engagement de Ruth. Dieu l'honore en intégrant pleinement cette Moabite dans son peuple, ce qui lui permettra d'épouser Boaz. Pourtant, elle n'avait aucun droit par nature d'y entrer. C'est même condamné dans le livre des Nombres. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Malgré la loi, lui passe au-dessus. De l'union de Boaz et Ruth naîtra une descendance royale. David sera leur arrière-petit-fils. Et plus de 1000 ans après, c'est cette lignée que Dieu choisit pour donner naissance à Jésus, toujours à Bethléem, la ville qu'Élimélec avait quittée avec Naomi, mais où Naomi a décidé de revenir. Michée en aura la révélation, lui, quelques 400 ans plus tard que cette histoire, que c'est là qu'il y aurait cette descendance. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Mais pourquoi se plaît-il à choisir les choses viles du monde pour confondre les fortes, comme Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1, verset 27, « Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est. » Parce que Ruth, quand même, elle était une Moabite. Elle était donc la descendante d'un inceste entre Lot et l'une de ses filles. C'est pas glorieux comme descendance. Boaz, il était mieux. Celui qu'elle épousera une fois à Bethléem, descendant de Pérets. Lui, ce Pérets, il est né de la relation peu glorieuse de Judas avec sa belle-fille Tamar. Il y a de quoi s'interroger. Quel choix d'ancêtre? D'ancêtre pour un David, le roi selon le cœur de Dieu, avec des ancêtres pareils, avec une lignée pareille. Et pour Jésus surtout, le Fils bien-aimé, sans péché. Il naît dans cette descendance-là. Pourquoi Dieu se plaît-il à faire des choses pareilles? Parce qu'il se plaît à confondre les sages en lui disant ce qui est fou. Et même avec la folie de la croix, nous dit aussi Paul. Dieu se plaît à ce que sa gloire soit portée par des vases de terre, fragiles, sans grande valeur, afin que cette gloire lui soit attribuée et ne soit pas attribuée aux hommes. Ça aussi, Paul le dit aux Corinthiens dans la deuxième lettre, chapitre 4. Ce trésor, la gloire de Dieu, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. Dieu se plaît aussi à bénir au-delà du raisonnable, à pardonner leurs fautes à des personnes qui ne le méritent pas à vue humaine. Rien n'est jamais perdu avec Dieu. Il peut reconstruire des vies brisées, des vies perverties, Il se plaît même à le faire. Il désire le faire. Il n'est pas venu sauver des bien portants, mais des malades. Parce que de toute éternité, il nous désire à son image, quels que soient les égarements que nous avons pu vivre jusque-là. Le choix de Ruth est exemplaire pour nous. Elle a discerné que son choix d'un Dieu personnel, son choix d'implication, d'intégration dans le peuple de Dieu, c'était un tout. Son propre salut était lié à l'histoire de ce peuple qu'elle ne connaissait pas, dont elle ne comprenait pas forcément l'histoire. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. C'est ce que beaucoup plus tard, Paul expliquera aux chrétiens d'Éphèse. Dieu est riche en bonté, c'est au chapitre 2, l'épître aux Éphésiens, à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous aurez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Un salut personnel, quel que soit notre passé. Et d'autre part, aux Éphésiens, il dit aussi, vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Un salut personnel, un salut qui nécessite l'intégration et qui conduit à l'intégration dans ce peuple de Dieu, dont il nous veut aussi comme cohéritiers, comme descendants, liés à toute cette descendance, pas très glorieuse, et pourtant Dieu en avait besoin, comme de l'anneau. Dieu avait besoin du descendant d'un inceste, du descendant d'une prostitution, de descendants qui avaient fait de mauvais choix à de mauvais moments. Et Dieu avait besoin de tout cela pour manifester sa gloire en Jésus-Christ, sans péché, et pourtant né dans ces familles-là. Que le Seigneur nous donne de pouvoir nous réjouir de ce que, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre ascendance ou nos capacités ou nos grandeurs ou nos petitesses, même les petits anons, il en a besoin. On ne sait pas pourquoi, mais lui juge qu'il en a besoin. Et il nous dit qu'il a besoin de chacun de nous. Alors puissions-nous accepter d'entrer pleinement dans ce plan et non pas de rester à cheval entre deux chaises. Amen.